Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Virginie, puéricultrice de formation et désormais infirmière libérale. Aujourd'hui, le podcast s'articule autour de la religion et des soins. En tant qu'infirmière, je me demande souvent comment mes collègues arrivent à combiner leurs valeurs de leur foi et leur travail auprès des personnes souffrantes. Si vous aussi vous vous posez les mêmes questions, restez à l'écoute de l'interview de Virginie. Salut Virginie, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Pour permettre aux auditeurs de mieux te connaître, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, s'il te plaît?
Bonjour Aurélie, merci de m'inviter. Donc Virginie, je suis infirmière libérale depuis 5 ans. Sinon, je suis de formation infirmière puéricultrice et j'ai bossé pendant 17 ans à l'hôpital dans un service d'enfants gravement malades. Sinon, j'ai 45 ans et je suis infirmière depuis 23 ans.
Il me semble que tu as aussi un rôle dans la paroisse des jeunes de ta ville, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis dans une paroisse qui est animée par les jeunes, par et pour les jeunes. Et je suis dans cette paroisse, LEM, ce qu'on appelle LEM, laïque en mission ecclésiale. Donc j'ai une mission de l'évêque dans l'accompagnement des jeunes. Voilà, les jeunes sont dans une période de croissance humaine où ils deviennent adultes, ils choisissent leur métier, ils entrent dans la vie active. Et c'est vraiment une étape importante et dans une paroisse, il me semble que c'est essentiel qu'on puisse accompagner cette étape particulière de la vie de vie d'adulte dans un accompagnement humain et spirituel. Et j'y travaille une journée par semaine officieusement, je suis plutôt là 2 jours.
Et du coup, oui, ça consiste à rencontrer les jeunes et à discuter avec eux autant de leur vie personnelle, professionnelle, c'est ça?
Oui, il y a vraiment un pôle écoutant, c'est-à-dire qu'on ouvre des espaces lors de soirées, lors de week-ends, etc., où on est disponible pour écouter la vie de l'autre et comment Dieu se dit dans la vie du jeune. Et alors, c'est pas des choses non palpables. Quand on parle de Dieu, souvent on se dit « voilà, c'est quelque chose d'insaisissable », etc. Mais vraiment, c'est repérer ce qui met en vie, ce qui met en joie dans le chemin, dans la vie de ce ou cette jeune, pour se dire, eh bien là, on y sent quelque chose d'épanouissant et d'heureux, de profond, qui nous fait dire que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Et comment, du coup, dans l'accompagnement spirituel ou dans l'écoute, on est témoin ou à l'écoute de ce qui se passe pour accompagner l'un ou l'autre de façon spirituelle, humaine. Donc, voilà, c'est cette présence et cette écoute qui permet aux jeunes ou à la jeune d'avancer sur son chemin.
Et est-ce que tu crois que c'est ta foi, toi, qui t'a guidée vers ton métier d'infirmière? Parce que, bon, on sait, infirmière, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute. Et bah, ça regroupe aussi ce que toi, tu fais ici.
Je sais pas, je le dirais pas comme ça. Puisque ma vocation d'infirmière, j'ai eu à l'âge de 4 ans. Je viens d'une famille pas catho-pratiquante. Donc, je connaissais pas forcément la foi, même si j'étais dans une école catholique à ce moment-là. J'ai eu ma vocation le jour où j'ai été opérée de l'appendicite, embarquée dans un hôpital et j'étais fascinée par le monde hospitalier. Et c'est de là qu'est née ma vocation.
Et t'as dit que t'étais infirmière puéricultrice de formation, c'est ça? C'est, ouais, le monde des enfants, c'est quelque chose que tu as découvert pendant tes études ou tu savais que tu voulais déjà faire ça avant?
Pareil, à l'âge de 4 ans, je savais que j'allais être spécialisée pour les enfants, c'est venu se confirmer dans mes études, dans les stages que j'ai eus. Et peut-être avec cette spécificité, ou ce charisme, ou cette attirance pour les enfants qui ont des maladies graves. Et tout l'accompagnement de l'enfant, de la famille. Très vite, en fait, j'ai commencé. Mon premier poste était dans un service d'hémato en COF, donc avec des enfants qui ont des leucémies. Je jusqu'à voilà, avec certains qui décèdent. Et donc très vite, ça a été une attention pour moi ou un désir de me former sur l'accompagnement jusqu'à la mort de l'enfant et des familles et de tout cet accompagnement effectivement de la souffrance.
Pour la société, le fait qu'un enfant décède, c'est beaucoup plus difficile à accepter qu'un adulte. Mmh. J'imagine que d'être dans un service comme ça, ça ne devait pas être tous les jours facile.
Juste une petite histoire, j'étais là depuis quelques semaines en service d'hémato, donc j'avais 23 ans, je débarquais. Et j'arrive dans une chambre d'un enfant qui avait 7-8 ans, rechute d'une leucémie. Et comme on fait les soins en stérile, on fait sortir les parents. Et puis le petit garçon m'a dit, mais est-ce que je vais mourir? Et là, je pense que je me suis effondrée intérieurement à savoir quoi lui répondre. Et j'ai été inspirée de lui renvoyer la question, toi qu'est-ce que t'en penses? Et lui de répondre, oui mais le dis pas à mes parents parce qu'ils vont, ils vont être tristes. Donc j'ai été confrontée directement à cette question de la mort. Et en tout cas, à comprendre ou à ce moment-là à prendre vraiment conscience que accompagner l'autre sur son chemin, c'est d'abord être à l'écoute de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et de savoir et de sentir que de toute façon l'autre, l'enfant ou les parents ont les réponses en eux pour avancer, et que c'est pas moi qui suis là pour dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça, mais d'ouvrir ces espaces d'écoute et de présence. Je trouve que c'est en tout cas l'essentiel de mon métier d'infirmière, même si aujourd'hui je suis infirmière libérale. Où on a un boulot très routinier, très, c'est toujours la même chose et des soins très basiques. Ce qui est important, c'est comment je suis présente et écoute auprès de cette personne pour qu'elle puisse se dire et avancer sur son chemin. Et si les questions de mort, enfin tout sujet peut être abordé et comment on avance ensemble en fait.
Et oui, à domicile c'est pareil, tu fais du soin palliatif et j'imagine que c'est peut-être comme un service de des matos onco, la prise en charge avec eux.
Ce qui est différent, c'est que là on est avec des personnes âgées à domicile. Dans les services où j'ai été, c'est particulièrement des enfants, donc il y a quelque chose, tu disais tout à l'heure, je pense que c'est la pire chose au monde de perdre un de ses enfants, et j'ai pu le mesurer dans les familles, comment ça vient les détruire, comment le deuil du papa, de la maman sont tellement différents, tellement difficiles, que ça peut soit réunir une famille, soit la séparer, et sans parler des frères et sœurs. Donc là, il y a quelque chose qui, pour moi, me semble assez simple, entre guillemets, ou assez facile d'accueillir une personne qui a vécu, qui a eu une belle vie, qui laisse un héritage humain, enfin voilà, qui a mis sa trace sur la terre et qui part. Donc dans ce sens-là, c'est plus simple. Après, il y a toujours la complexité de comment la personne accueille sa propre mort, comment elle en parle ou elle n'en parle pas, et comment la famille est prête ou pas à accueillir le décès. Et donc il y a tout un travail d'accompagnement, de comprendre où est-ce que les uns et les autres en sont, de quoi ils ont besoin, et quels sont les mots que l'on a à poser comme professionnel à un moment de dire « mais là, votre mari, il va mourir », pour que la personne puisse se situer, puisse avancer, et après... On est là, on ne fera pas grand-chose d'autre, si ce n'est être là, et c'est important, pour pouvoir accueillir les émotions, les mots, comment chacun avance avec la maladie, avec la mort. Mmh. Et je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas pour la famille, c'est quand il y a de la souffrance physique. Quand, j'ai eu une situation d'un patient qui a voulu rester à la maison, sa femme était avec lui. Et ce patient, on s'est dit, on n'a pas été forcément très bon dans la prise en charge, puisqu'il avait un médecin traitant qui était présent, mais peut-être pas assez réactif et peut-être pas assez formé sur comment accompagner en fin de vie quand il y a une souffrance. Et donc ce jour-là, on s'est dit, il faut qu'on appelle plus vite les soins palliatifs, pas forcément dans l'accompagnement psychologique, mais eux ont en tout cas les moyens et les protocoles pour quand une personne souffre, elle ne souffre pas et qu'elle puisse partir dans la paix.
Comme tu dis, les soins palliatifs, déjà à l'hôpital c'est compliqué de le mettre en place. Ici on a une unité à l'hôpital, dans les cliniques c'est les équipes mobiles de soins palliatifs.
Alors à domicile, c'est ça, il faut que quoi, c'est quoi la procédure? Alors il faut que tu téléphones au médecin traitant pour qu'il puisse faire venir les soins palliatifs, ou c'est toi qui prends directement en contact avec eux?
Ça se fait en parallèle, c'est-à-dire que moi, quand je sens qu'on arrive au bout de nos capacités, dans nos limites de ce qui se passe à domicile, j'appelle le médecin traitant et en accord avec lui, on appelle l'équipe de soins palliatifs qui vient avec un médecin, une infirmière, parfois une psychologue, et on fait le point avec la famille de ce qu'ils ont besoin, à la fois d'un point de vue thérapeutique, au niveau des médicaments, de l'accompagnement, du matériel à mettre à domicile, etc.
D'accord. Et des fois, il t'arrive de récupérer des patients qui sont à l'hôpital en soins palliatifs et qui veulent décéder, mais chez eux.
Oui.
Donc ça, c'est déjà tout mis en place, en avance.
Quand ils reviennent de l'hôpital à domicile en soins palliatifs, oui.
Oui, d'accord.
Il y a des protocoles, Et c'est vrai qu'on a un cabinet où on accepte d'accompagner jusqu'au bout, ce qui modifie les tournées, hein, parce que ça nous demande une disponibilité beaucoup plus importante. Parfois, les soins ne prennent pas beaucoup de temps, mais l'accompagnement du patient et de la famille est premier à ce moment-là. Donc, on se rend disponible pour la famille.
Et donc, du coup, toute cette charge émotionnelle et la prise en charge, tu dis, qui est quand même plus importante et auquel vous y prenez plus de temps. Est-ce que toi, à côté, tu as des sas de décompression, on va dire, poser tout ça, toutes ces émotions, tout ce que tu as pu vivre auprès du patient et de sa famille?
Oui, en préalable à ça, j'aimerais dire, je pense que j'ai ce charisme-là, en fait. Depuis toute petite, voilà, j'ai eu une famille avec des parents qui ont pas mal souffert, donc que j'ai accompagné, donc ça m'a ouvert à plusieurs compétences, qui après j'ai travaillé, en fait, et j'ai été formée. Donc j'ai cette capacité de pouvoir accompagner sans, en mettant une juste distance, et pas en laissant submerger par la souffrance et la douleur, surtout quand il y a des enfants qui meurent, c'est quand même assez terrible. Donc j'ai cette capacité-là d'accompagner et de ne pas laisser, en tout cas, submerger. Mais ce qui m'aide particulièrement aujourd'hui, c'est ma foi. Et de sentir que je suis tellement enracinée en Christ, en Dieu. Tout mon travail, c'est d'être ses mains, ses yeux, son cœur, et d'accompagner la personne et de le laisser travailler à travers moi et de pouvoir me reposer et me déposer en lui, en fait. Et de faire ma petite part, mais de savoir que je ne suis pas responsable et je ne suis pas le sauveur de l'autre, je ne suis pas, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, et que moi là-dedans je suis une petite main, et que tout mon travail c'est d'être tendresse, douceur, présence, pour que la vie de l'autre puisse se vivre jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est pour moi mon lieu de ressourcement et de où je peux déposer tout ça, c'est dans les mains de Dieu.
D'accord. Et au cabinet, vous passez aussi du temps à discuter de genre de situation, et peut-être passer la main l'un à l'autre si ça devient compliqué pour vous?
Oui, effectivement, on est trois dans le cabinet. Quand il y a une situation compliquée, on en parle. Alors, je suis avec deux collègues qui ne sont pas catho pratiquants, mais on a les mêmes valeurs et les mêmes essentiels. Et ça, c'est important. Et du coup, on arrive à se dire les choses assez simplement, de qu'est-ce qui peut être bon pour la famille, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a entendu, et de se le partager, et puis de se dire comment on les accompagne, qu'est-ce qui nous semble essentiel. Voilà, et après, chacun, on est présent avec notre charisme. Et la famille l'accueille, notre complicité et nos différences sont bien perçues et accueillies dans les familles.
Et bon, on parlait des patients qui étaient qui ont fait une vie à domicile. Comment du coup tu gères tout ça au quotidien?
J'ai envie de revenir sur une anecdote aussi qui m'est arrivée dans le début de ma carrière. Ça faisait un an que je travaillais. J'étais dans un service de gastronutrition, donc des enfants qui ont des grosses pathologies, soit gastro, soit néphrologiques. Et là, il y a une petite fille de 4 mois, Ambre, qui est arrivée avec un CHU, un syndrome hémolytique uremique, qui était pour elle mortel en tout cas, on n'a pas réussi à la sauver. Et donc qui était en soins palliatifs dans le service, accompagnée par le néphrologue. Et un matin, avec ma collègue, on arrive, on sent cette petite fille en train de partir, mais surtout très 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 douloureuse. J'ai appelé le médecin qui est venu et qui a prescrit de l'hypnovelle, et qui m'a dit, mais tu me dis si tu te sens de le passer ou pas. Et en fait, j'étais vraiment très sereine et très en paix, à la fois avec ma foi et avec mon métier. parce que je passe le médicament parce qu'il y a souffrance physique et qu'il y a quelque chose d'inhumain de laisser quelqu'un souffrir. Mais je sais que ce médicament peut entraîner une détresse respiratoire et peut la faire partir. Et de fait, c'est ce qui est arrivé. L'objectif premier était que cette petite fille ne souffre plus. Et ça, c'est vraiment en accord avec ma foi. Je crois en un Dieu qui vient apaiser les souffrances. Et donc, voilà, cette situation, elle s'est renouvelée pas mal de fois. Et pour moi, c'est vraiment quel est le sens du médicament que j'utilise. Jamais j'ai utilisé un médicament pour faire mourir, mais toujours pour apaiser la souffrance physique, la souffrance morale. Parfois, on a eu un patient qui était très, très, très angoissé, très stressé, très agité, et que la priorité était de l'apaiser, tout simplement. Et on sait qu'en passant à la morphine, l'hypnovelle, etc., il s'est endormi paisiblement, mais c'était vraiment un accompagnement, et pas ce qu'on pourrait penser de l'euthanasie, puisqu'on n'a pas passé les médicaments pour le tuer, mais pour l'apaiser.
Moi, ouais, je trouve que c'est bien que tu en parles de ça, parce qu'en plus, en ce moment, ils rediscutent sur la loi, voilà, la fin de vie, l'euthanasie... Ouais. Suicide assisté, et je pense que les gens lambda qui ne travaillent pas à l'hôpital, ils savent pas ce que c'est déjà de rencontrer quelqu'un qui souffre autant physiquement que psychologiquement, et ce que c'est de passer des médicaments pour les soulager et ne pas les tuer. Je rejoins tout à fait dans ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai vécu des situations qui ont été hyper difficiles. Et il aurait fallu un petit peu de ces médicaments-là pour que ben, le passage entre sa vie ici et le après, il puisse se passer comme il faut.
C'est toute la question de l'accompagnement, en tout cas. Et les médicaments sont au service de cet accompagnement. Donc c'est toujours réfléchi, c'est toujours discuté avec le médecin. Et on sait qu'il y a des effets secondaires des médicaments et qu'on est sur des fins de vie très proches, on est à quelques heures du décès. Pour moi, c'est inhumain de voir quelqu'un souffrir physiquement. Enfin, c'est horrible. Et c'est pas aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, c'est pas possible de laisser quelqu'un souffrir. Mmh. Et c'est ça qui est premier. C'est ça qui est premier.
Et est-ce que tu vois une différence entre la prise en charge des paramédicaux, donc nous, infirmiers, aides-soignants, et la prise en charge médicale ?
Effectivement, moi, je pense que j'ai eu la chance... d'être avec des médecins qui étaient à l'écoute et qui en tout cas étaient dans cette mouvance-là. Mais je peux raconter une autre petite anecdote, c'est que ma grand-mère a été renversée par une voiture en 2011 et qu'elle m'a fait appeler, elle a réussi à me faire appeler. Et quand je suis arrivée aux urgences, c'était branle-bas de combat, enfin, je voyais, voilà, j'étais pas avec elle, mais visiblement il y avait une fracture du bassin, elle était en train de s'enfoncer. Et puis d'un seul coup, grosse agitation, donc il y a une infirmière qui passe devant moi, je lui dis mais est-ce que c'est ma grand-mère ? Elle me dit bah oui, elle s'enfonce, enfin, elle savait que j'étais infirmière, donc elle... Et donc je lui ai demandé d'appeler l'interne, et là l'interne me dit bah oui, elle vient de convulser, on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup j'ai demandé à arriver, et dans la salle, il y avait le senior, le grand chef qui était là, qui était en train de prescrire la transfusion, le truc, le bidule. Il y avait une agitation, ma grand-mère était dans une agitation, donc elle m'a vue. Elle m'a fait signe non de la tête parce qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc à ce moment-là, j'ai bien vu qu'ils étaient dans ce que tu dis, dans ce désir de sauver ou autre. Mais j'ai dit stop. Hein. Voilà, j'ai dit stop, est-ce qu'on va la sauver ? Et ils me disent mais non, on ne va pas la sauver. Donc j'ai demandé de faire arrêter les soins et de nous laisser. Mais c'est pas naturel, effectivement, surtout dans les services d'urgence ou autres. Les médecins ont envie d'aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est à nous, personnel paramédical, aux familles ou autres. Alors moi j'étais des deux côtés, donc ça joue. Et normalement, pouvoir dire à un moment, mais stop, on se pose, où est-ce qu'on va ? Et ça, c'est aussi des situations qui sont arrivées, nous, avec des enfants gravement malades, où les médecins étaient encore dans une démarche thérapeutique, où nous, infirmières, auxiliaires de puériculture, on se posait des questions. Et on a pu dire au médecin, mais on va où ? Est-ce qu'on va sauver ? Première question. Oui et non. Si on est dans le non, qu'est-ce qu'on met en place pour que cette petite fille, ce petit garçon, cette famille, pour que cette fin de vie puisse se vivre avec plein de vie ? Qu'est-ce qui va être prioritaire ? Et qu'est-ce qui est confortable ? Qu'est-ce qui peut être heureux ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être à la maison ? Enfin voilà, et de voir tout est possible, et grâce à ça, c'est vrai que nous dans notre service on a eu beaucoup de chance de pouvoir discuter jusqu'à envoyer un petit garçon mourir à Disney. La famille voulait absolument l'emmener quand on a su qu'il allait mourir. Moi, j'ai mis les pieds dedans. Alors, j'ai cette capacité d'être en vérité et de pouvoir poser les choses à un moment ou à un autre. Après, la famille l'entend ou l'entend pas, mais c'est important que nous, on puisse dire où est-ce qu'on en est. Donc, ben voilà, on va pas le sauver. J'ai entendu que son rêve, c'était de prendre le train et d'aller à Disney. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, ben oui. Et donc, on a tout fait. Et le matin du départ, moi, je leur ai dit, enfin, on était très inquiets avec les médecins en disant, mais je pense qu'il peut mourir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Et les parents ont dit, nous, on veut aller à Disney avec lui. Et on a des vidéos de ce petit garçon dans le train, etc. Il était plein de vie. Et il est mort là-bas. Après, l'après-coup nous a fait dire que les parents n'y croyaient pas, puisque ça a été terrible, le décès, enfin voilà. Ils nous ont appelés en hurlant, en disant « mais on croit qu'il est mort », enfin pour eux ça a été quelque chose de... Mais nous on avait fait notre part de médecin, c'est-à-dire qu'on les avait avertis, eux n'étaient pas en capacité d'entendre à ce moment-là. En tout cas, ils l'ont entendu, ils l'ont compris, mais leur instinct de parents ne pouvait pas envisager ça. Et donc on les a accompagnés. Jusqu'à voilà, mourir à Disney, et Disney était exceptionnel dans cette... Mais parce que c'était leur désir et que voilà, on les a accompagnés jusqu'au bout avec cet essentiel de tant qu'il y a de la vie, et c'est ça qui est premier, quoi. Qu'est-ce qui est la vie en premier?
On finit sur une belle histoire, parce que bah oui, peut-être que pour lui c'était la meilleure chose qu'il pouvait...
Vraiment. Quand on voit les vidéos, ouais.
Ouais, il était... Ouais. Ça résume un peu ce qu'on a dit tout le long du podcast, écouter le désir du patient, prendre en charge jusqu'au bout. Moi, je trouve que oui, c'est le plus important. Et de toute façon, quand les gens y partent, on voit bien qu'ils sont apaisés, dans quelles conditions ils sont partis, s'ils sont apaisés ou pas. Donc, c'était sûrement la plus belle chose qu'il soit arrivé.
Et puis accompagner au rythme de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien parfois que les parents ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre, mais c'est leur liberté, enfin, c'est leur chemin, et qu'on n'a pas à les forcer. Nous, on a dit les choses, on a posé les choses. Ils ont souhaité prendre ce petit garçon à Disney, on a dit ok, et on vous accompagne dans cette réalité-là, quoi. Donc il y a vraiment un lâcher-prise quand on est soignant, dans des postures comme celle-là, mais je pense que, en tout cas pour moi, c'est important, c'est-à-dire que la vie de l'autre ne m'appartient pas. Et j'ai beau être le soignant de l'autre, je ne suis pas, c'est pas moi qui décide. Et que je peux dire comment moi je me situe comme soignant, ce qui me semble bien, et c'est au patient et à la famille de dire ça c'est possible et ça c'est pas possible. Et du coup, à moi de l'accompagner dans cette réalité-là.
Je te remercie pour toutes ces, en plus, ces petites histoires qui font que c'est d'autant plus réel, et pour tout le monde, de savoir ce qui se passe dans les hôpitaux ou dans le domicile.
Avec joie.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée.